Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Steven Soderbergh, artisan du cinéma. Bonjour à toutes et tous. Steven Soderbergh est un cinéaste insaisissable et prolifique qui alterne des films calibrés pour le grand public, par exemple Erin Brockovich ou Ocean's Eleven, et des films plus artisanaux et moins connus. Comme si à tous les stades de sa carrière, Soderbergh devait vérifier qu'il était capable d'apprendre et qu'il reste connecté à l'essence même de la création artistique. Soderbergh est, à sa manière, un cinéaste expérimental. Le méconnu Kafka, avec Jeremy Irons, flirte avec l'expressionnisme. Et dans d'autres longs métrages, il s'agira de revisiter le film noir, le film d'action, de jouer avec le montage et les filtres. Par exemple dans Trafic, dont la lumière couleur sable est la marque de fabrique reconnaissable. À chaque projet, la préoccupation de Soderbergh est de faire cinéma, à partir d'une histoire, de penser une esthétique au service d'un scénario et de faire de chaque film une expérience unique. Il embrasse toutes les technologies à partir du moment où elles servent la cinématographie. Il se fait homme orchestre, contrôlant à la fois la lumière et le montage. Il se fait aussi producteur pour accompagner les projets de ses amis, de Todd Haynes à Christopher Nolan à leur début. Il filme des scénarios originaux mais n'hésite pas aussi à faire des remakes ou à tourner des documentaires. Tout cela fait de Steven Soderbergh un auteur, un des derniers auteurs à Hollywood tant l'industrie du cinéma semble s'être perdue dans la production de blockbusters interchangeables. Steven Soderbergh est un cinéaste de la fluidité, écrit mon invité Pauline Gage. Plutôt que de rester cramponné à une technologie ou à une forme, à un propos ou à un thème, il évolue avec chaque film et se réinvente. Fluidité donc de sa trajectoire de réalisateur, de son approche, de ses modèles esthétiques et même de sa capacité à se projeter lui-même. Il annonce ainsi régulièrement qu'il ne tournera plus, mais se lance ensuite dans des entreprises colossales. On pensera ici à la magnifique série de Nick sur un hôpital new-yorkais du début du XXe siècle. Bonjour Pauline Gage.
Bonjour.
Pauline Gage, vous êtes maître de conférences en anthropologie à l'université Lyon 2 et lectureur au département de français de Columbia. Vous êtes aussi journaliste, passionné de musique et de cinéma. Vous avez publié tout récemment un ouvrage sur Louis Malle. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer votre dernier livre, Steven Soderbergh, Anatomie des fluides, sorti chez Playlist Society en 2021. Alors Pauline Gage, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments biographiques sur Steven Soderbergh ?
Oui, bien sûr. Merci d'abord de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Steven Soderbergh, donc il est né en 1963. Il est né à Atlanta, en Géorgie. Et c'est un homme du sud des États-Unis. C'est-à-dire qu'il a vécu en fait assez peu à Atlanta. Il a très vite déménagé avec ses parents et ses frères et sœurs, d'abord à Charlottesville, puis à Baton Rouge, donc entre la Louisiane et la Virginie. Et c'est donc là qu'il a grandi. C'est là qu'il s'est éveillé intellectuellement. C'est là qu'il a appris ce qu'était le cinéma. C'est là qu'il a appris à faire du cinéma en fréquentant les campus des universités où son père était enseignant, puisque son père était lui-même un enseignant-chercheur. À partir de cette éducation un petit peu sur le tas dans les campus, en fréquentant certains cours de cinéma, il a commencé assez vite à travailler d'abord pour la télévision, à faire du montage pour des émissions télé, hein, et ça dès la fin du lycée. Et puis, à 25 ans, il a réalisé son premier long métrage, Sexe, mensonge et vidéo, qui est un film qui a eu un énorme succès, qui a eu non seulement un succès populaire, mais aussi un énorme succès critique, et qui a lancé sa carrière à ce moment-là. Et puis par la suite, c'est un cinéaste qui est très très prolifique, donc qui a réalisé énormément de films depuis le premier, donc en 1989, et qui justement, donc comme vous le disiez dans l'introduction, hein, multiplie les casquettes et chef opérateur, cadreur, monteur, réalisateur de ses propres films et producteur de films et de séries télévisées.
Alors effectivement, vous avez mentionné son premier film qui a eu beaucoup de succès, Sexe, mensonge et vidéo, qui a gagné la palme en 1989. Il a été comparé, alors évidemment pour un jeune cinéaste c'est énorme, il a été comparé à l'époque à Woody Allen, à Bergman, et vous racontez dans votre ouvrage que Steven Soderbergh n'avait vu aucun de ses films, aucun de ces cinéastes-là, ils ne connaissaient pas ces films-là, et en même temps, ou alors peut-être que c'est une posture, et en même temps ça a beaucoup fait penser, son premier film a beaucoup fait penser à Woody Allen.
Voilà, alors c'est surtout, en fait, effectivement, Je parle de ça dans le livre, hein, du fait qu'on le comparait à beaucoup de cinéastes qu'il connaissait en fait assez mal. C'est surtout Romer, hein, c'est de Romer qu'il dit qu'il n'a vu aucun film à l'époque. Il avait déjà vu des films de Bergman et il parle beaucoup de Persona et de l'influence de Persona dans sa carrière et dans sa manière de faire du cinéma. Donc, bon, mais effectivement, Romer, qui est à Cannes, les journalistes français l'ont très vite comparé à Romer, c'était pour lui quelqu'un qu'il connaissait mal ou très peu, quoi. Woody Allen, effectivement, je crois que ce qui fait penser à Woody Allen dans Sexe, mensonge et vidéo, c'est ce côté à la fois très proche des personnages, très inspiré par la psychanalyse, hein, puisque bon, la première scène de Sexe, mensonge et vidéo, qui est vraiment la manière dont commence en fait la carrière de Steven Soderbergh, est une scène d'analyse chez un psychothérapeute, hein, enfin chez un psychanalyste. Et donc il y a effectivement cette relation là. Et puis il y a quand même un humour et une ironie dans Sexe, mensonge et vidéo qui effectivement peut faire penser à Woody Allen, mais c'était un peu une fausse route que de s'imaginer qu'il allait être Woody Allen, puisque dès son second film, en fait, il a pris une direction complètement autre, et il n'a cessé de prendre des directions autres pendant toute sa carrière. Ce qu'il a tout de suite dit d'ailleurs, hein, ne vous attendez pas à ce que je reste dans ce créneau Sexe, mensonge et vidéo, il l'avait prévenu, et effectivement c'est ce qu'il a fait.
Oui, c'est ce qui complique un peu l'entrée dans son œuvre, c'est qu'elle n'est pas, tout à fait homogène par rapport à d'autres cinéastes. Alors, Pauline Gage, vous écrivez dans votre ouvrage, « Sexe, mensonge et vidéo va changer à jamais l'histoire du cinéma indépendant américain ». Pourquoi est-ce que ce film-là change le fonctionnement ou la place du cinéma indépendant et peut-être du cinéma indépendant à Hollywood ?
Oui, alors je crois que ceci est indissociable de la figure de Harvey Weinstein. Hein, on est en 1989, c'est un peu le début hein, de l'ascension de Weinstein. Et Sexe, mensonge et vidéo est un film qui a bénéficié de sa politique agressive de diffusion et de promotion d'un film. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Sexe, mensonge et vidéo soit le premier film indépendant américain qui ait eu du succès. On ne peut pas dire non plus que ça a été le premier qui ait eu des prix dans des festivals, etc. En revanche, c'est le premier qui a été diffusé avec une telle ampleur. C'est-à-dire que, bon, les films indépendants américains, jusqu'à Sexe, mensonge et vidéo, ceux qui avaient du succès, hein, sortaient aux États-Unis entre New York et Los Angeles, faisaient beaucoup d'entrées dans ces deux villes. Avec Sexe, mensonge et vidéo, on a pour la première fois une sortie beaucoup plus large, avec des petites villes des États-Unis qui se retrouvent dans leur multiplex avec des diffusions de Sexe, mensonge et vidéo. Donc, du coup, ça est vraiment... C'est un film, si vous voulez, qui a ouvert la population américaine au sens beaucoup plus large à l'existence d'un cinéma autre que le cinéma hollywoodien. Et là, vraiment, ça a été une sorte de bascule. Et c'est vrai qu'après Sexe, mensonge et vidéo, bon, évidemment, Miramax va se développer, Weinstein va poursuivre sa carrière. Quelques années plus tard, il va retourner à Cannes, cette fois-ci, non pas uniquement en tant que distributeur, mais en tant que producteur, et remporter la Palme d'Or pour Pulp Fiction. Donc, on est vraiment dans le début hein, de cette explosion du cinéma indépendant américain. Et on est aussi au moment où les studios hollywoodiens vont se rendre compte qu'il y a peut-être de l'argent à se faire là, et où ils vont eux-mêmes proposer ouvrir leurs portes aux cinéastes indépendants et proposer des franchises pour le cinéma indépendant, en fait. Hein. Donc, le cinéma indépendant va aussi être capté par Hollywood suite à cette explosion-là. Donc, c'est vrai que Sexe, mensonge et vidéo a été important dans cette transition.
C'est-à-dire, c'est le moment où, en fait, le cinéma indépendant va devenir une espèce de niche à Hollywood, mais parce qu'il est... Hollywood va essayer, et Weinstein vont essayer de le rendre lucratif, en fait, ouais, en se disant, voilà, on va ouvrir ce cinéma-là au commerce national.
Tout à fait, complètement, national et international. C'est-à-dire que la diffusion de Sexe, mensonge et vidéo à l'international a aussi été énorme. Hein. Donc, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars de bénéfices. Donc, effectivement, à ce niveau-là, ça a changé les choses. Ouais. Et ce que, évidemment, bien entendu, Soderbergh n'imaginait absolument pas quand il a réalisé ce petit film en bas de chez lui, à bâton rouge. Voilà, ça a été un premier bouleversement dans sa carrière qui était assez improbable.
Alors justement, quand on se penche sur sa carrière de cinéaste, comme vous l'avez fait, Pauline Gage, on a l'impression qu'il y a deux points de départ. C'est-à-dire cette espèce de premier point de départ un peu trop précoce de à tous les niveaux de Sexe, mensonge et vidéo. Et puis un second point de départ qu'il va lui-même fabriquer, qui serait un peu, disons, le moment de la maturité, même si l'expression est un peu galvaudée, qui va être hors d'atteinte, le film hors d'atteinte, avec George Clooney notamment, au milieu des années 90. Est-ce que c'est un peu l'idée, ces deux points de départ, ces deux départs différents dans la carrière de cinéaste de Steven Soderbergh?
Alors, c'est effectivement comme ça qu'il décrit sa carrière. C'est-à-dire qu'il a réalisé ce premier film, Sexe, mensonge et vidéo, qui a eu un succès immense. Et puis, par la suite, il a réalisé une série de films que comme il dit lui-même, hein, personne n'a vu. C'est-à-dire que par la suite, hein, il a réalisé effectivement Kafka, King of the Hill, puis Schizopolis et Grey's Anatomy, hein, qui sont quatre films qui n'ont à la fois pas récolté les faveurs du public, mais souvent pas récolté les faveurs des critiques non plus, et qui sont des films, et j'ai oublié À fleur de peau, The Underneath, et qui sont des films qui sont tous d'une facture assez différente, et où clairement, quand on les voit aujourd'hui, on se rend compte qu'ils testent des choses qu'il poursuivra par la suite, et puis ils se collent à des matériaux assez divers qui vont effectivement du film noir au pseudo-documentaire, à un film presque expérimental qui est où un acteur dit un monologue et il a essayé de mettre en scène ce monologue. Donc tout ça est très divers et varié, hein. Et puis effectivement il y a à la fin des années 90 Hors d'atteinte, Out of Sight, qui est une nouvelle renaissance, un film de la maturité, je ne sais pas, parce que il était quand même encore très jeune à ce moment-là, hein, Steven Soderbergh. Il a commencé tellement jeune que il était encore très jeune.
Il est resté longtemps.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être le film de la liberté. C'est-à-dire que il dit souvent que ses premiers films étaient son école de cinéma, qu'il a appris à faire du cinéma dans ses premiers films, et que par la suite, quand il est arrivé à Hors d'atteinte, il maîtrisait mieux l'objet, il maîtrisait mieux l'outil du cinéma et le langage du cinéma, ce qui lui a permis de pousser les choses plus loin. Et puis bon, il décrit aussi Hors d'atteinte comme étant le moment où il a compris que pour être cinéaste, il n'était pas nécessaire d'être scénariste, qu'il pouvait être réalisateur, se servir des scénarios des autres. Et en fait, quelque part, le fondement de la méthode Soderbergh se met en place avec Out of Sight, Hors d'atteinte, l'idée étant comment essayer de transformer en cinéma les matériaux les plus larges possibles, les scénarios les plus larges possibles, les ambiances, les contextes les plus larges possibles. Comment moi, en tant que cinéaste, je peux transformer ça en image? Et je crois que c'est la première fois qu'avec Hors d'atteinte, la question est vraiment posée de manière très claire. Je n'écrirai pas, mais par contre, je transformerai des scénarios en films. Et par la suite, c'est ce qu'il a continué à faire, puisqu'il a écrit quelques scénarios par la suite, mais en fait, assez peu. Hein, donc, son travail, il est multicasquette, il est en orchestre, mais a priori, il n'est pas scénariste.
Ouais, donc sa liberté, c'est aussi de pas être prisonnier de l'écriture du scénario. Sur Hors d'atteinte, en tout cas, c'est un film peut-être de la maturité pour Georges Clooney, qui montre au grand public qu'il n'est pas cantonné à son rôle, évidemment, qu'il a rendu très célèbre dans Urgence, et qu'il est un acteur qui a de multiples facettes. Donc ça profite aussi à Clooney, ce film-là, Pauline Gage.
Ça profite complètement à Clooney, d'autant plus que Clooney est à l'origine du projet, en fait, hein. C'est-à-dire que quand Steven Soderbergh passe l'entretien d'embauche qui lui permet de réaliser Hors d'atteinte, hein, puisque au départ il n'était pas du tout pressenti pour réaliser ce film, hein. Il était sur la liste. Et en fait, Hors d'atteinte est l'adaptation d'un roman de Elmore de Leonard. Donc, on est à une époque où Elmore de Leonard a un peu la cote. Enfin, il a toujours la cote, mais il l'a eu particulièrement à ce moment, puisque c'est aussi lui qui avait écrit Rum Punch, qui va devenir Jackie Brown, hein, de Quentin Tarantino. Donc, on est à cette période-là. Donc, on fait un casting, Universal fait un casting pour trouver un réalisateur, et Soderbergh parvient à convaincre George Clooney et à convaincre Universal. Donc, et à partir du moment, effectivement, où il est retenu pour réaliser le film, le partenariat avec Clooney va être très fort. Ils vont très bien s'entendre, ils vont collaborer ensemble dans la construction du film. Soderbergh dit que les notes que George Clooney lui a envoyées lorsqu'il a vu le film la première fois étaient vraiment des notes de producteur avec un avis sur le cinéma, mais qui dépassait largement le jeu d'un acteur. Et puis par la suite, cette collaboration entre George Clooney et Soderbergh va être particulièrement fructueuse, puisqu'ils ne vont pas s'arrêter là, hein. Ils vont travailler ensemble sur de nombreux films par la suite, dont la trilogie des Oceans, où ils sont aussi les deux acteurs centraux, hein, les deux personnages centraux du film.
L'homogénéité de l'œuvre de Soderbergh, elle est peut-être à trouver du côté de la régularité de ses collaborations, alors à la fois avec des acteurs, hein, vous venez de mentionner George Clooney, il y a Don Cheadle, il y a Julia Roberts comme actrice, il y a Jude Law. On retrouve une même monteuse assez souvent, qui s'appelle Anne Veigh Coates, et puis un ingénieur du son, dites-vous, Pauline Gage, Larry Blake, qu'il connaît depuis l'université, donc peut-être que là, il y a quand même une continuité un peu souterraine dans l'œuvre de Soderbergh?
Ouais, alors c'est effectivement assez intéressant parce que Soderbergh est quelqu'un qui est à la fois complètement, lâchons l'expression qui est horrible, hein, mais complètement control freak sur ses films, c'est-à-dire que effectivement il multiplie les tâches. Hein, il est le réalisateur, mais il est aussi cadreur, ce qui va beaucoup influencer sa relation avec les acteurs, hein, puisqu'il est toujours très proche des acteurs pendant les films. Il est monteur sur aujourd'hui la totalité de ses films. Donc c'est vrai que Anne Coates était la monteuse sur Hors d'atteinte, mais assez rapidement en fait, Soderbergh va devenir monteur. Et puis, il est aussi chef opérateur hein, de tous ses films. Donc, tout ça avec des pseudonymes, Peter Jackson pour le chef opérateur et Marianne Bernard pour la monteuse. Donc, il a d'un côté ce côté de contrôle absolu de son œuvre et en ayant cette idée qu'un tournage et la fabrique d'un film doit rester quelque chose de spontané et qu'à partir du moment où c'est lui qui s'occupe des tâches presque les plus importantes, hein, on reste dans la spontanéité en permanence parce qu'il ne perd pas son temps à avoir des conversations et à devoir se justifier avec des collaborateurs. Et il dit ça de manière très claire et très, très ouverte. Hein. Donc ça, c'est une partie de son profil un peu. Et puis à côté de ça, c'est effectivement quelqu'un qui a construit sa carrière sur la collaboration avec des acteurs et puis avec des techniciens qui le complètent, c'est-à-dire qui font quelque chose que lui ne peut pas faire ou ne veut pas faire. Donc, effectivement, Larry Blake est quelqu'un qu'il a rencontré quand il habitait à Baton Rouge. Larry Blake était de Louisiane, enfin aussi, hein, mais lui de la Nouvelle-Orléans. Et donc, ils ont très vite collaboré ensemble sur des premiers courts-métrages et ils travaillent toujours ensemble aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres personnes comme ça qu'on va retrouver. Son assistant, qui est le même aussi sur tous ses films, qui produit aussi un certain nombre de ses films. Et puis, des décorateurs qui le suivent et avec lesquels il peut travailler aussi vraiment en collaboration, puisque compte tenu du fait qu'il monte ses films pendant les tournages, il peut montrer les images à ses collaborateurs qui eux-mêmes peuvent donner leur avis. Il y a un vrai travail d'équipe qui se met en place. Donc on est sur deux tableaux.
Et pareil pour les acteurs, c'est-à-dire que quand on voit Ocean's Eleven, on se dit ils ont quand même l'air d'une bande de potes, tous ces gens, et ça a l'air d'être vrai dans la vraie vie.
Ben, ça a l'air d'être vrai. En tout cas, ça marche. Effectivement, on a envie d'y croire. Et c'est vrai que quand on entend ces acteurs parler de leur expérience avec Steven Soderbergh, ils sont souvent très dithyrambiques. Et puis, en plus, Soderbergh est souvent quelqu'un qui a changé leur carrière. C'est-à-dire que, vous parliez de Julia Roberts tout à l'heure, hein. Julia Roberts a eu un Oscar grâce à un film de Steven Soderbergh. Dans la carrière de George Clooney, il y a vraiment un avant et un après Soderbergh. Soderbergh a fait exploser sa carrière et puis surtout a fait qu'on l'a pris pour un acteur sérieux, quoi, hein, et pas uniquement un acteur de série et un pédiatre. Et puis c'est vrai pour beaucoup d'entre eux. Don Cheadle a eu ses plus beaux rôles avec Soderbergh. Et puis Matt Damon est un petit peu avec The Informant, qu'il a tourné avec Steven Soderbergh, est devenu un petit peu autre chose que le gendre parfait. Et c'est vrai que cet acteur, qui est un acteur fabuleux, hein, c'est aussi quelque part révélé chez Soderbergh. Et puis c'est vrai pour Channing Tatum, hein, qui aussi, maintenant, est devenu un collaborateur central de Soderbergh et qui a eu des rôles magnifiques avec lui. Magic Mike, à mon avis, c'est un des meilleurs films de Steven Soderbergh à ce jour.
On va en parler parce que effectivement, on connaît peut-être un peu moins cette partie-là de sa filmographie. On va écouter le début d'un morceau des Isley Brothers, Fight the Power, qui accompagne justement George Clooney dans Hors d'atteinte.
Go!
L'homme, fréquence protestante, Steven Soderbergh, artisan du cinéma. Nous sommes en duplex avec Pauline Gage. Alors en vous lisant Pauline Gage, je me suis dit que Steven Soderbergh n'essayait pas, on l'a dit, de faire une œuvre homogène, mais d'être dans une production filmique qui est à chaque fois renouvelée. C'est vraiment l'archétype du cinéaste caméléon, ou en tout cas du cinéaste du shape-shifter, quoi, qui change de forme en permanence. Donc chaque film est un essai de quelque chose.
Oui, je crois qu'on peut dire ça. Je crois que Steven Soderbergh, c'est quelqu'un qui a une foi et un amour total pour le cinéma en tant que en tant qu'art, en tant que moyen de communication, mais aussi en tant que technique. Et je crois qu'il y a cette idée chez lui de s'attarder sur des thématiques et des matériaux qui sont les plus différents possibles, et d'essayer de leur donner un peu une valeur cinématographique, hein, de voir qu'est-ce que ça deviendrait dans le cinéma, qu'est-ce que le cinéma pourrait en faire. Et je crois qu'il voit vraiment chacun de ses projets un peu sous ce prisme-là. Bon, ceci étant, malgré le côté prolifique et cet aspect profondément caméléon de sa personnalité et d'artiste, hein, il y a quand même des choses qu'on retrouve, hein, dans les films de Soderbergh. Il y a un certain nombre de lignes directrices, hein, qu'on peut retrouver. Il y a des thèmes d'abord, hein. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la société américaine, qui s'intéresse beaucoup aux dynamiques contemporaines de la société, au processus de globalisation, de mondialisation, aux réseaux, qui s'intéresse aux questions de classe, de race aux États-Unis, etc. Donc du genre. Donc c'est des thématiques qu'on retrouve. Et puis même visuellement, le jump cut, le fait de commencer une scène avec le son avant l'image. Il y a des choses comme ça qui sont quand même un petit peu sa patte et qu'on retrouve dans tous ses films malgré cet éclectisme. Mais c'est vrai que l'éclectisme, au-delà d'être une liberté chez lui, je pense que c'est vraiment lié à son approche du cinéma. Hein. C'est vraiment comment je peux m'attaquer à des choses très différentes et toujours faire en sorte que le cinéma soit le meilleur médium pour en parler.
Et vous dites, Pauline Gage, que il s'est aussi intéressé. Alors, il a fait des remakes. C'est-à-dire que je rebondis sur ce que vous disiez sur cet amour du cinéma. L'amour du cinéma, c'est aussi parfois d'aller revisiter des films qu'on aime beaucoup. Donc, il fait notamment un remake de Solaris, de Tarkovsky, et puis Ocean's Eleven. Alors ça, c'est peut-être un peu moins connu. Reprend, dites-vous, L'inconnu de Las Vegas de Lewis Milestone, qui est un film des années 60. Donc là, c'est pas seulement des films hommages, mais y revenir et les retravailler à la manière de Soderbergh.
Oui, je crois. Alors pour ce qui est de Solaris, l'idée c'était aussi de revenir au roman en fait, hein, qui a été adapté par Tarkovsky. Donc il y a un retour aussi à la matière écrite, hein, du film. Après, en ce qui concerne la trilogie des Ocean, je crois que il y a la volonté effectivement de revisiter un film, mais il y a aussi cette volonté de se servir d'une équipe d'acteurs qui jouent des malfrats, mais pour d'une certaine manière faire une sorte de mise en abîme de ce qu'est un tournage de cinéma. C'est-à-dire, on va aller reproduire un film qui date des années 50 avec des acteurs qui sont des grandes célébrités, comme c'était le cas dans les années 50, hein, puisque dans L'inconnu de Las Vegas, c'est Dean Martin et Frank Sinatra, etc., Sammy Davis Jr., etc.
Le Rat Pack.
Voilà, donc on reprend un casting prestigieux, hein, et on va faire un casse, quoi. Mais on va faire un casse à la fois dans un casino, mais on va faire un casse dans l'histoire du cinéma. Et ce qu'on va mettre en avant, c'est des acteurs qui prennent un plaisir fou à se jouer des règles pour construire un succès, quoi. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette mise en abyme, mais ce qui fait que le film est d'une jouissance folle.
Oui, vous écrivez, Pauline Gage, hein, faire un film pour Soderbergh, c'est comme faire un braquage. Alors, vous l'avez dit au début de l'émission, il est un peu control freak. Moi, j'ai aussi le sentiment qu'il est un peu geek, hein, c'est-à-dire que vous nous racontez quand même qu'il, par exemple, il tient un blog où dans lequel il note absolument tout ce qu'il a vu, lu, fait pendant une année et il le rend public. Donc, on peut voir un peu ses listes, ses pratiques. Là, c'est le côté quand même un peu geek. Les geeks aiment bien, ou les cinéphiles aiment bien faire des classements en permanence ou noter tout ce qu'ils font.
Il est complètement geek, ça c'est sûr. Effectivement, il a donc tous les ans ça tombe en général pendant la première semaine de janvier. Il publie la liste de tous les films qu'il a regardés, mais aussi de tous les livres qu'il a lus, de toutes les pièces de théâtre auxquelles il a assisté pendant l'année précédente. C'est classé par jour, hein, donc on peut savoir exactement le 25 novembre, il a regardé tel film. Tout est très détaillé. Et puis son site internet est intéressant parce que c'est aussi un petit peu une sorte de lieu d'éducation populaire au cinéma, en fait. Un des dadas de Soderbergh, bon, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait, mais disons qu'un des dadas de Soderbergh au début des années 2000 était de s'amuser avec des classiques du cinéma, parfois de les remonter, de déplacer des scènes à l'intérieur des films, de faire passer un film en couleur au noir et blanc. Et tout ça, non pas dans l'optique d'améliorer les films, pas du tout, hein, mais dans l'optique de faire des expériences qui peuvent nous permettre de réfléchir à ce qu'est le cinéma et à ce qu'est le langage cinématographique. Donc, par exemple, il a fait une version en noir et blanc des Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, qui, selon lui, met en avant de manière très claire la beauté des cadres de Spielberg et le sens du cadre de Spielberg. Et voilà, sa théorie étant de dire que le noir et blanc permet mieux de voir ce sens du cadre. Et puis, il a aussi fait une version de La Porte du Paradis de Michael Cimino qui dure une heure de moins. Mmh. Donc, il l'a largement coupé, hein, et qu'il appelle le montage du boucher.
Et au moins, ça a le mérite d'être clair.
Dans lequel il a déplacé certaines scènes, mais absolument pas en disant que le film de Cimino était trop long, hein, mais en disant, voilà, que serait ce film si telle scène était placée là, si on avait mis l'accent sur tel personnage et si on avait raccourci le préambule. Donc, c'est vraiment l'idée de faire des exercices qu'il met en ligne et qu'il offre un peu aux personnes qui sont intéressées par le cinéma et qui pourraient se poser les mêmes questions que lui. Mais effectivement, c'est une attitude de geek, hein, aller remonter des films le week-end chez soi quand on a rien d'autre à faire. Bon, oui.
C'est particulier. Alors effectivement, il aime bien monter et remonter. Et vous insistez, Pauline Gage, dans votre ouvrage sur, alors là pour le coup, c'est une constante chez lui, l'emploi du montage pour suggérer des sentiments. Alors c'est toujours évidemment un peu compliqué de parler de montage à la radio, mais est-ce que vous auriez un exemple dans le livre, vous donnez l'exemple d'une danse dans The Nick entre deux personnages où par le jeu du montage est suggéré quelque chose que je ne vais pas dévoiler, mais que vous pouvez dévoiler.
Alors, en fait, c'est un peu un motif, c'est la scène dont vous parlez, hein, c'est un peu un motif qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la carrière de Steven Soderbergh. Alors, ceci, en fait, est inspiré au départ d'un film qui est un classique du film d'horreur d'un réalisateur qui s'appelle Nicholas Roeg. Et le film, en français, le titre, c'est Ne vous retournez pas. Et qui est un film qui se passe donc dans les années 70 à Venise, et où il y a au début du film une scène d'amour entre deux personnages qui est construit sur un montage alterné entre l'acte sexuel en tant que tel et la scène d'après, qui est la scène où les deux personnages se rhabillent. Et donc pendant toute la scène, on passe en montage alterné en permanence entre les deux, ces deux moments en fait de la scène d'amour. Ce motif, c'est un motif que Soderbergh a repris. Bon, c'est un grand fan de ce film, hein. Il a repris ce motif à plusieurs reprises de sa carrière. Et effectivement, pour construire une sorte de réflexion sur la mémoire, hein, chez Soderbergh, et sur la manière dont des personnages vont mettre en mémoire des images et des souvenirs dans un film et devant le spectateur. Donc la première fois qu'il a fait ça, c'était dans Hors d'atteinte, où il y a une scène qui est superbe dans Hors d'atteinte, qui est aussi une scène d'amour, hein, et où les deux personnages principaux qui sont interprétés par George Clooney et Jennifer Lopez se retrouvent d'abord dans un hôtel puis effectivement consomment leur amour, et on passe sans cesse en montage alterné hein, du moment de la scène d'amour en tant que telle et des moments qui ont précédé et suivi cette scène d'amour. Et tout ça est mélangé. La seule chose qui crée le lien étant le son, puisque la conversation qu'ils ont au départ en fait de leur rencontre est une conversation qu'on va suivre pendant toute la séquence, et elle dans un ordre chronologique. Donc on assiste vraiment, c'est comme si le montage en fait nous montrait des personnages qui ne savent très bien qu'ils ne revivront plus cette scène, puisque bon, pour des raisons qui sont l'histoire du film, effectivement, ils ne revivront plus cette scène. Donc ils ne la revivront plus, et donc du coup, ils essaient d'emmagasiner le plus d'images possible, et le montage, cette espèce de montage qui passe d'un moment à l'autre de leur histoire, c'est vraiment comme si c'était des sortes de gimmicks de la mémoire qui tournent en boucle et dont on essaie de se souvenir. Et c'est effectivement un motif qu'il a repris par la suite dans Venick. Et il y a une scène d'une danse entre deux personnages du film, et où, là aussi, hein, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on a la conversation qui précède et la scène de danse qui se lie, hein, qui se mélange l'une avec l'autre, et où, là aussi, ce qu'on voit, et c'est très très beau, c'est en fait la manière dont la conversation va mener les personnages à retomber amoureux, et où cette danse va sans cesse être informée par les paroles qu'ils se sont prononcées, et le montage renforce ça, c'est-à-dire la création, le renouveau d'un sentiment amoureux qui avait disparu. Et ça, c'est des choses effectivement qu'il aime bien faire. Il aime bien mélanger les espaces-temps et mélanger les espaces aussi physiques hein, dans une même scène, toujours avec la continuité du dialogue. Et le son est très important pour ça, hein, puisque c'est le son effectivement qui fait la continuité.
Il a une économie narrative particulière qui passe effectivement par le montage, comme vous venez de nous l'expliquer, Pauline Gage. Moi, je suis surpris parfois par le fait qu'il ne filme pas des choses, ou alors qu'il va nous montrer des choses, mais uniquement par le biais de flashbacks, par exemple dans les Oceans, en tout cas dans le deuxième, la vraie scène, le vrai vol, le vrai casse, il n'est pas filmé, il est montré qu'à la fin, à toute vitesse, dans une scène de flashback. Dans Erin Brockovich, on s'attend à ce qu'il y ait une espèce de, que ce soit un procédural, comme on dit, et que il va y avoir le procès, la class action des 600 plaignants, et en fait, c'est pas filmé, et on apprend au détour d'un dialogue que, bah, ils ont gagné le procès, et qui vont toucher 333 millions de dollars. Donc là, à certains moments, il y a des choses qui pourraient être très intéressantes pour des cinéastes, mais où lui ne va pas, parce que bah, ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça pour faire avancer sa narration.
Ben, je crois qu'en fait, ce qui l'intéresse quand même avant tout, ce sont ses personnages, et c'est la manière dont les événements, que ce soit des événements très petits hein, qui ont lieu à l'intérieur d'un appartement, ou des événements très globaux, comme ça peut être le cas dans Trafic ou dans Contagion, où là vraiment on est dans des films qui sont à des échelles beaucoup plus larges, dans les deux cas, ce qui l'intéresse, c'est la manière dont ces situations vont avoir des répercussions sur ces personnages. Et dans la trilogie des Ocean, c'est vraiment très visible, parce que le casse, en réalité, l'intéresse beaucoup moins que les relations d'amitié qui naissent à l'intérieur de cette troupe de braqueurs-acteurs. Et je crois qu'effectivement, c'est le personnage qui l'intéresse, non pas uniquement forcément dans une dimension psychologique, hein, mais dans une dimension un peu comportementale, hein, la manière dont on va se comporter dans différentes situations. Et puis, en ce qui se concerne son habitude à filmer un petit peu les temps morts, c'est quelque chose qu'on retrouve même à l'intérieur des scènes, c'est-à-dire qu'il y a une habitude chez Soderbergh qui est très très belle à l'intérieur d'une scène de dialogue, de ne pas tant filmer la personne qui parle et de plutôt s'intéresser à celle qui reçoit, et de plutôt s'intéresser aux réactions hein, des autres personnages dans une scène. Hein. Et il y a cette femme là qui joue Eva Husson, qui interprète Lucy dans The Nick, et qui explique que, donc qui est une infirmière hein, dans cet hôpital au début du XXe siècle, et qui explique que à la lecture du scénario, elle ne se serait jamais imaginée figurer autant à l'écran. Mais c'est vrai que bien qu'il y ait beaucoup de scènes où elle ne parle pas, Soderbergh l'a imaginé comme étant un personnage central, et en fait les répercussions de l'action et des paroles des autres sur son personnage sont ce qui l'intéresse. Et ça, il fait souvent ça, il fait beaucoup ça dans Magic Mike aussi, hein, où on a des scènes de groupe où beaucoup de personnes parlent et où en réalité lui, il ne filme la scène que en faisant un gros plan sur le personnage de Mike interprété par Channing Tatum pour en voir ses réactions. Donc même à l'intérieur d'une scène, hein, ces temps morts, ces non-dits sont des choses qui l'intéressent particulièrement.
Il veut filmer effectivement la réception du discours, il veut aussi filmer les pensées des personnages. Il y a un côté très interactionniste, on sent que ça a pu vous intéresser vous comme anthropologue. On retrouve là peut-être la marque de son attitude attirance pour les sciences dures et pour les sciences sociales, c'est-à-dire vraiment travailler les comportements humains et puis faire des films qui sont très documentés, Pauline Gage.
Oui, je crois. Ce qui m'intéressait en fait avant tout dans ce livre, c'est d'essayer de dresser un portrait de Steven Soderbergh, de faire vraiment une histoire de Steven Soderbergh. Et il y a vraiment beaucoup de moments dans le livre qui sont des moments de récit. Et moi, je voulais absolument, effectivement, je suis à la base anthropologue, je suis pas critique de cinéma, moi, ma formation, c'est l'anthropologie. Et puis, je suis spécialiste des États-Unis, donc j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, j'y vis aujourd'hui, pour l'instant. Et ce qui m'intéressait, était de le situer un petit peu intellectuellement, culturellement, Steven Soderbergh. Et je crois que dans le regard qu'il a sur le monde, et dans l'approche qu'il a du cinéma, mais aussi dans son regard sur les États-Unis, il y a vraiment quelque chose qui est très, très lié à ses origines, à son parcours. C'est-à-dire le fait qu'il soit quelqu'un qui vient du sud des États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'ait pas grandi dans les grandes villes de cinéma. Le fait qu'il soit un fils d'universitaire. Et qu'il ait effectivement passé toute son enfance sur les campus, où son père était professeur d'éducation, était lui-même un enseignant-chercheur qui publiait des textes sur le cinéma, sur l'éducation. Donc, il a vraiment baigné dans les sciences sociales. Il a baigné aussi par la suite dans les sciences dures. Et c'est vrai qu'il a une manière d'appréhender chacun de ses projets un petit peu comme un chercheur. C'est-à-dire qu'il s'attaque à des sujets qui nécessitent des recherches. C'est vrai pour Contagion, où il a collaboré avec des médecins, des scientifiques. C'est vrai pour The Nick, qui est quand même une observation très, très détaillée de ce que pouvait être un hôpital à New York au début du XXe siècle. Donc, c'est vrai, bien sûr, pour son film sur Che Guevara, pour lequel il s'est énormément informé. Il a fait beaucoup de recherches. Mais je crois que même dans les concepts qu'il utilise pour parler de ses films, bon, il a un côté très fils de professeur d'université, c'est-à-dire qu'il parle de neurosciences, il explique pourquoi il choisit de faire une comédie pour parler des Panama Papers, de son film qui est sur l'évasion fiscale, parce qu'il a compris grâce aux neurosciences que l'humour pouvait permettre à des gens de changer d'avis sur une question. Et, donc il a vraiment quelque chose qui est très informé par cet héritage d'universitaire.
Vous insistez, Pauline Gage, sur une facette peut-être un peu moins connue de Steven Soderbergh, qui est sa mise en scène de corps hors normes. Par exemple, alors on en a parlé un tout petit peu en début d'émission, les corps musclés. Donc il y a un film, par exemple, alors avec quelqu'un qui n'est pas très connu en France, qui s'appelle Gina Carano, qui est une athlète. Et puis, vous avez mentionné Channing Tatum. Qu'est-ce que c'est que cette facette-là, cette attirance pour les corps musclés et d'autres types de corps, Pauline Gage, chez Soderbergh?
Alors là aussi, j'ai un peu envie de relier ça à son éducation et à l'endroit d'où il vient en fait. Il y a quelque chose chez Soderbergh qui est un petit peu, quand on lit, quand on s'intéresse à son enfance, son adolescence, etc., il y a un côté un petit peu pastoral américaine de Philip Roth avant que ça tourne mal, quoi. C'est-à-dire que enfant d'intellectuel, mais aussi obsédé par le sport. Donc, Soderbergh, d'abord, avant de vouloir être cinéaste, il voulait être joueur de baseball. Donc, il était obsédé par le baseball. Il allait voir des matchs de baseball avec son père. Bon, donc, on est un petit peu, et là, pareil, le baseball sur les campus américains, etc. Donc, on est un peu dans cette logique-là. Et donc, il a un amour pour le sport dont il a beaucoup parlé. Il a tendance à parler de son métier de cinéaste comme étant un métier de sportif, c'est-à-dire pour lequel il faut avoir une préparation physique qui ressemblerait presque à la préparation physique d'un sportif. Et il est très, très clair là-dessus. Il pousse la métaphore assez loin dans son discours. Et puis, après, dans ses propres films, lui-même s'est intéressé à la question des corps, à la question des mouvements des corps dans l'espace, c'est-à-dire comment filmer des corps qui se déplacent, et puis aussi à la question du sport, du corps en performance. Donc ça, il l'a fait surtout dans deux films qu'il a tourné un peu coup sur coup. Le premier étant Piégé, qui est un film avec Gina Carano. Gina Carano étant une star du MMA, du Mixed Martial Art aux États-Unis, qui a fait d'autres films depuis, mais Piégé était son premier film. Piégé est un film d'espionnage assez classique en ce qui concerne son scénario, une sorte de film de vengeance d'une espionne qui s'est trouvée malmenée par un certain nombre d'hommes récemment, et donc elle va se venger de ces différents hommes. Mais Gina Carano, donc étant une sportive, étant au cœur du processus, c'est vrai que l'intérêt principal de Soderbergh était de filmer en fait des scènes de combat, mais dans lesquels la personne qui se battait n'était pas une actrice, mais vraiment quelqu'un qui était capable de détruire n'importe quel des acteurs sur le plateau. Donc il y a quelque chose comme ça de très... Et le film, et les scènes de combat du film sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont très longues et elles s'intéressent vraiment aux gestes physiques et aussi au son du combat, c'est-à-dire le bruit des coups, le bruit de la respiration. On a vraiment l'impression d'assister à des combats en direct. Et puis, bon, évidemment, le fait que ce soit une femme et qu'elle ait comme adversaire des hommes, que ce soit une actrice amatrice, puisque c'est son premier film, et qu'elle soit contre des acteurs très connus.
Oui,
puisqu'on a, y a Michael Douglas, il y a Channing Tatum dans le film, il y a Michael Fassbender, enfin bon, voilà, elle se bat contre des gens qui sont quand même assez connus. Donc il y a vraiment aussi cette idée un petit peu de renverser les stéréotypes du cinéma d'action hollywoodien et de mettre au cœur du processus une femme qui est une femme musclée et qui est une athlète. Et puis par la suite, il y a eu effectivement Magic Mike. Magic Mike étant un film sur une équipe, une troupe de stripteaseurs à Tampa, en Floride, donc dans les années 2000. Et le film est vraiment, à mon avis, passionnant, puisque il suit le parcours d'un homme qui est effectivement un homme avec un corps d'athlète très musclé, qui se produit sur scène pour faire fantasmer les femmes, qui devient un peu un objet de consommation lorsqu'il est sur scène, mais qui a deux activités, c'est-à-dire il est stripteaseur la nuit, et dans la journée, il est ouvrier, il est couvreur. Et dans ce contexte-là, ses muscles sont aussi mis en valeur, puisque, comme un ouvrier du bâtiment, il a effectivement besoin d'être fort, et il est exploité également dans son travail pendant la journée. Donc c'est vraiment un film qui réfléchit à l'exploitation des ouvriers aux États-Unis, à l'exploitation des classes populaires, et ça à travers un portrait et une mise en valeur du corps de Channing Tatum, qui est à la fois un corps magnifique, musclé et d'athlète, et en même temps un corps qui souffre de son exploitation et qui souffre de l'usure du temps aussi.
Dernière question, parce que le temps a filé, Pauline Gage, donnez-nous quelques bonnes raisons d'aller voir en France sur OCS la série d'ailleurs, pour l'instant, la seule qui l'ait faite, je crois, de Steven Soderbergh, qui s'appelle The Nick, dont on parle depuis le début de cette émission. Pourquoi est-ce qu'il faut voir The Nick ?
Alors, il faut voir The Nick parce que déjà, The Nick est une expérience assez incroyable dans le monde de la série, puisque c'est une série qui a été tournée, donc il y a deux saisons, 2014-2015, mais dont chacune des saisons a été tournée comme un film. C'est-à-dire que Steven Soderbergh est le monteur, le réalisateur, le cadreur et le chef opérateur de chaque épisode. Et les épisodes ont été tournés comme un film avec un plan de travail unique. Donc non pas épisode après épisode, mais conçu comme un film de 10 heures. Et donc c'est ainsi pour la première saison, c'est également la même chose pour la deuxième saison. Et donc ça permet d'avoir devant soi un objet qui est fascinant, parce que c'est vraiment une série dans sa construction, avec des cliffhangers à la fin des épisodes, des personnages qui se développent sur 10 heures, etc. Donc on est vraiment dans le monde de la série, mais en même temps, visuellement, on a vraiment affaire à une œuvre qui est cohérente du début à la fin, parce qu'elle est l'objet d'un créateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fascinant et qui est assez rare, en fait, dans le monde de la série. Et puis ensuite, il faut voir The Nick, parce que The Nick permet de découvrir un portrait de New York au début du XXe siècle qui est fascinant, et des relations sociales, des relations de classe, des relations raciales, des relations de genre dans la ville à l'époque, qui en font un tableau parfait pour comprendre la société américaine de l'époque et comprendre aussi ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
La recommandation est faite. Voilà, notre émission s'achève. Je remercie chaleureusement, je vous remercie, Pauline Gage, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Steven Soderbergh, Anatomie des fluides. C'est publié par Playlist Society en 2021. Je remercie Arnaud et Emmanuel à la technique. Ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. Au plaisir, alors, Pauline Gage, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt, bonne suite à tous.